Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Et voici votre premier journal de ce dimanche 28 février. Bonjour Florence Cohen.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Vous écoutez Europe 1, soyez les bienvenus. Il est 6h.
On voit bien qu'il y a moins de monde sur la route et au bord de mer et en bordure de Siagne. Oui, je pense qu'il est respecté, c'est une bonne chose. Parce que nous, on le respecte et on prend l'attestation à chaque fois qu'on sort.
Des contrôles dans les Alpes-Maritimes pour faire respecter le confinement. Deuxième journée sans sortie ce dimanche, comme à Dunkerque.
En Espagne, la région de Galice veut punir ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid. Des amendes prohibitives.
L'évasion romanesque de Carlos Ghosn du Japon, c'était il y a un an exactement. Ce matin, l'ancien patron de Renault et son épouse seront les invités de Frédéric Taddeï à partir de 9h sur Europe 1.
Et faute de salon Porte de Versailles, les agriculteurs vous accueillent dans leur ferme et s'appelez aux petits et aux grands.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le couvre-feu fonctionne très bien, mais on ne peut pas exclure des mesures plus strictes. C'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui le dit ce matin dans le journal du dimanche. L'agglomération de Dunkerque et le littoral des Alpes-Maritimes poursuivent leur premier week-end de confinement. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde dans l'arrière-pays niçois, constatent certains habitants. À Nice, les contrôles de police se sont multipliés, beaucoup moins d'ailleurs à Cannes et Mandelieu, pas très loin de là, comme a pu le constater le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
On est seul. Ça fait du bien, ouais. Seul au monde.
Des plages désertes, des rues timidement fréquentées, des parkings vides devant de nombreux magasins à Mandelieu et Cannes ce samedi après-midi. On se serait cru un an en arrière, au début du premier confinement. Dominique s'est accordé une heure de promenade.
On voit bien qu'il y a moins de monde sur la route et au bord de mer et en bordure de Siagne. Oui, je pense qu'il est respecté, c'est une bonne chose. Parce que nous, on le respecte et on prend l'attestation à chaque fois qu'on sort.
Siagnes, policiers et gendarmes étaient très visibles hier. À l'ouest du département, leur présence était plus discrète, comme a pu le constater ce jeune couple de Cannois.
Non, il n'y a pas de contrôle. Ça fait une heure qu'on marche, on a fait aller-retour et on n'a pas été contrôlé une seule fois.
On plaint juste les Varois, parce que je pense que tout le monde est parti dans le Var.
Et à la montagne, voilà.
C'est ça le problème.
Il y avait en effet beaucoup de monde vendredi sur la route en direction des stations. Le préfet n'a pas exclu d'ailleurs de généraliser si besoin le confinement. Michel et Françoise, eux, ont profité de l'heure de sortie autorisée pour une escapade au bord de l'eau.
Régulièrement, on fait cette
promenade. Mais nous, on le fait tous les jours, mais plus que ça, d'habitude. Là, c'est bien, il n'y a personne.
On est limité à une heure, c'est un peu juste.
Il faut partir la montre en main et il faut revenir là, n'importe tard d'ailleurs.
Allez, 5 minutes de retard, pas de quoi être sanctionné. Hier, dans le département, près de 300 PV ont été dressés, essentiellement à Nice.
À Paris maintenant, les berges du canal Saint-Martin étaient noires de monde hier sous le soleil. À Toulouse, les berges de la Garonne vont être fermées ce dimanche et tout le week-end prochain pour éviter les rassemblements de population. Les États-Unis valident un troisième vaccin anti-Covid, celui du laboratoire Johnson & Johnson.
Et puis Florence, c'est une première en Europe. La Galice, région du nord-ouest de l'Espagne, vient de rendre le vaccin obligatoire avec de fortes amendes pour les récalcitrants. La décision fait polémique dans tout le pays. Henri de la Guérie.
Les réfractaires au vaccin en Galice pourront être sanctionnés d'une amende allant de 1 000 à 60 000 euros. Cette mesure de la Galice va à l'encontre de la stratégie du gouvernement central qui a basé sa campagne de vaccination sur la base du volontariat. Les spécialistes sont plutôt sceptiques à l'image de l'urgentiste Octavio Salmeron.
Je crois que les mesures punitives ont démontré qu'elles ne sont pas efficaces. La mesure en Galice est trop draconienne, trop rigoureuse. Je pense qu'il faut créer des stimulus positifs pour que les gens se vaccinent.
Et l'Espagne fait aujourd'hui partie du peloton de tête des pays qui vaccinent le plus en Europe. 4,7% de la population a reçu au moins une dose du vaccin. C'est plus qu'en France ou en Allemagne.
Reportage d'Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. C'est la fin d'un marathon annuel. Les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs. Les supermarchés veulent obtenir les prix les plus bas pour vendre moins cher, bien sûr, mais aussi pour faire des marges quand même. Emmanuel Duteil, vous nous emmenez dans les coulisses de ces négociations encore très tendues cette année.
D'un côté, l'acheteur de la grande distribution, parfois les enseignes, se regroupent pour avoir plus de poids, d'autres négocient seuls. De l'autre, le vendeur, c'est-à-dire celui qui fabrique les produits que l'on achète en magasin. Ça va de la brique de lait au petit yaourt bio, en passant par le paquet de lessive. C'est un véritable jeu de rôle bien rodé. La grande distribution veut payer le moins cher possible, le fournisseur veut l'inverse. Et du coup, pour arriver à ses fins, chacun a ses techniques. Et on n'est parfois pas loin de l'intimidation. On va l'appeler Paul. Il a négocié pendant des années avec la grande distribution pour des marques alimentaires. Et il nous dévoile les techniques utilisées.
Installer le vendeur sur une chaise qui est plus petite. Mais ce serait très fort faire attendre une durée incroyable. Au moment où on est en train de conclure, faire rentrer une tierce personne qui vient tout remettre à zéro et faire des demandes supplémentaires alors que le deal était quasiment conclu. Voilà, tout ça, c'est des techniques très, très, très employées.
C'est donc une guerre des nerfs, une guerre qui se joue dans les deux sens. Si une marque peut difficilement se priver d'un des grands distributeurs, c'est pareil dans l'autre sens. Une enseigne sans Coca-Cola ou sans les produits laitiers de Danone a tout de suite moins d'intérêt. Et le but de chacun, c'est donc de trouver le moins mauvais des compromis.
Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1, 6h05, vous vous en souvenez sans doute, c'était il y a un an exactement, cette évasion rocambolesque de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Il s'enfuyait du Japon, Florence.
Dans trois jours, Carlos Ghosn et sa femme Carole vont publier un livre intitulé « Ensemble toujours » aux éditions de l'Observatoire. Le couple sera, sachez-le, l'invité de Frédéric Taddeï à partir de 9h ce matin sur Europe 1. Invité depuis le Liban, où réside le fugitif le plus célèbre du monde, Nicolas Feldman.
I did not escape justice. I fled injustice.
Tout le monde se souvient, ce 8 janvier 2020, devant un parterre de micros, de caméras, Carlos Ghosn livre sa vérité. Sa femme Carole est au premier rang.
Je suis très fière de lui. Je vais pleurer.
À ce moment-là, cela fait 10 jours que l'ex-PDG de Renault-Nissan a fui le Japon sous le coup de 4 inculpations pour corruption. Et son évasion est rocambolesque. En pleine nuit, Carlos Ghosn quitte seul son domicile japonais coiffé d'un chapeau, masque chirurgical sur le nez. C'est caché au fond d'une malle qu'il embarque dans un avion. Le 30 décembre, Carlos Ghosn atterrit à Beyrouth et retrouve sa femme. C'est elle qu'il présentera aux yeux du monde comme la raison profonde de sa fuite. Depuis, le couple vit au Liban. Carlos Ghosn reste sous le coup d'un mandat d'arrêt Interpol. Il est visé aussi en France par plusieurs enquêtes. Au Japon, son procès civil s'est ouvert avant Noël. Nissan lui réclame 80 millions d'euros de dommages et intérêts.
Carlos Ghosn avec Frédéric Taddeï à partir de 9h sur Europe 1. Notez-le bien. Deux frères de 17 et 27 ans sont en garde à vue après l'assassinat d'un adolescent de 15 ans. C'était avant-hier en Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le motif du meurtre serait un règlement de compte sans qu'on en sache plus. En début de semaine, deux jeunes de 14 ans ont été tués au cours de rixes dans l'Essonne.
Et puis dans le journal du dimanche ce matin, trois ministres se disent sur le pont pour lutter contre les violences entre bandes. Il s'agit de Gérald Darmanin de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti à la Justice et Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale.
Et ils doivent rencontrer demain les préfets d'Île-de-France. Les précisions de Sarah Payou, journaliste au JDD.
Le but, c'est d'avoir un retour d'expérience des préfets d'Île-de-France pour ensuite construire des guides méthodologiques de repérage des bandes à l'intention des forces de sécurité. Et puis aussi, ce qui est demandé, c'est un nouveau diagnostic départemental qui doit être livré avant le 10 mars. Donc ça doit comprendre l'origine du phénomène, une cartographie, l'âge des individus, est-ce qu'ils utilisent des armes, les réseaux sociaux. Et en fait, l'Intérieur estime nécessaire ces nouveaux diagnostics parce qu'ils jugent que le phénomène a évolué. Ils ont le sentiment que les affrontements en fait, sont moins liés à des appartenances à des bandes ou à des quartiers, mais plus à des choses qui se disent sur les réseaux sociaux et notamment dans des messageries cryptées. Et ça, c'est un point particulier d'attention. Ils le disent eux-mêmes, c'est extrêmement difficile, mais il nous faut mieux pénétrer ces messageries.
Voilà, et la rencontre aura donc lieu demain. Les supporters des clubs sportifs pourront-ils bientôt retourner dans les stades?
Alors, en tout cas, je poserai la question tout à l'heure à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui sera mon invitée à 8h15.
Alors, si on parle beaucoup du sport professionnel, il ne faut pas oublier non plus la situation des clubs amateurs ou associatifs. Eux aussi sont frappés de plein fouet par la pandémie de Covid et ils auraient bien besoin d'aide pour survivre. Reportage dans un club de football alsacien, le SUC Strasbourg. Reportage de Mélina Fachin.
D'habitude, le samedi, c'est jour de match, mais depuis plus de 4 mois, il faut se contenter d'un simple entraînement. Le Covid a tout chamboulé pour ce club de foot associatif. Nicolas Baumgartner est le président du SUC Strasbourg.
Il n'y a plus de compétition depuis mi-octobre à peu près, quoi. Quand il y a eu les histoires de couvre-feu, donc on a dû arrêter les entraînements en soirée pour les plus grands. Et eux font plus qu'un entraînement le week-end. au lieu de deux entraînements et un match. Ça fait déjà donc deux saisons où ils payent plein pot pour pas faire entièrement la saison.
La licence coûte 110 euros par an. Pour certaines familles qui ont plusieurs enfants inscrits, c'est une dépense importante.
Quand on va leur redemander au mois de juin la nouvelle cotisation, là, je pense qu'il va falloir qu'on trouve les bons mots pour qu'ils ne nous demandent pas forcément le remboursement, tout ça. Qu'on trouve une formule pour l'année prochaine sans mettre l'association non plus en danger.
D'autant que l'autre source de revenus du club, la buvette, est fermée depuis des mois. Nicolas aimerait donc un coup de pouce de l'État. Pourquoi pas aider les familles défavorisées à payer leur licence? Et surtout, surtout, il aimerait pouvoir se projeter, avoir un calendrier, un espoir de retour à la normale. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Les résultats de la 27e journée de Ligue 1 de football. Le PSG est allé battre nettement Dijon 4-0. Bordeaux a perdu 2-1 face à Metz. À suivre ce soir, 21h, Marseille-Lyon. L'OM qui vient de se débarrasser de son président Jacques-Henri Hérault. Dans le tournoi Destination de rugby, vous savez que France-Écosse est reportée pour cause de Covid. De son côté, le pays de Galles maintient intact ses chances de grand chelem. Victoire 40-24 sur l'Angleterre qui du coup perd toute chance de gagner.
Alors on va parler de nos agriculteurs à présent, c'est important, vous le savez, sur Europe 1. Et vous le savez aussi, le salon de l'agriculture est annulé cette année pour cause de Covid.
Mais des centaines d'initiatives fleurissent en région. Par exemple, ces journées portes ouvertes à la ferme de l'Épinay, c'est à Orcémont dans les Yvelines, où s'est rendu Pierre Herbulot.
Avec trois bêtes, un petit marché de producteurs et un potager à visiter, la ferme prend des allures de micro-salon de l'agriculture.
Montée en août, récolte de septembre à avril.
La sortie idéale des vacances pour Betty et son petit-fils Marco, 8 ans et demi, hypnotisé par des plants de blettes.
C'est la première ferme que je vois, par exemple des fruits ou des légumes.
Ouais, que tu les vois comme ça dans la terre ?
C'est un peu la première fois.
Ça rapproche la ferme du centre urbain et au lieu d'aller garer notre voiture à Paris, et... non, c'est très bien.
Dans ses bras, un panier avec du miel, des tisanes artisanales et un magret de canard, le dernier vendu par Christophe Morin, producteur de foie gras.
Je trouve ça intéressant parce que pour nous, c'est un moyen de rencontrer nos clients, quoi, en fin de compte, et d'échanger, c'est faire partager ce qu'on vit nous tous les jours. Est-ce qu'on produit, est-ce qu'on sait faire, en fin de compte.
C'est justement pour ces échanges que Rémi de Groulard a décidé d'ouvrir sa ferme au public en l'absence du salon de la Porte de Versailles.
C'est de reconnecter le citadin avec la campagne, avec le terroir. Donc c'est important de garder ce créneau-là dans l'année pour parler de l'agriculture.
D'ailleurs, ici aussi, il y a une égérie, Bounty, une vieille chèvre de 15 ans moins fringante que les vaches top modèles qui défilent à Paris, mais beaucoup plus accessible. À Orcémont, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et Europe 1 remplace en quelque sorte le salon de l'agriculture. À partir de demain, nous irons à la rencontre des producteurs dans nos émissions et nos tranches d'information pour parler du quotidien des agriculteurs.
Exactement, et justement à cette heure-ci, dès demain, entre 5h et 7h, Sébastien Krebs sera en direct d'une ferme du Calvados. C'était le journal de Florence Cohen. Merci Florence. Retour de l'info à 6h30 avec Sébastien Guyon.